Bienvenue à la French Connection, épisode spécial. Cette semaine, je suis avec Vincent.
Salut.
Et Steve.
Bonjour à tous.
Cette semaine, nous allons aborder un sujet spécial qui est dans quelle mesure l'Internet est faux, puisqu'il y a un article qui est paru là-dessus il y a quelques semaines, puis Steve trouvait ce sujet très intéressant à aborder. Donc, on va commencer avec une légère introduction avec Steve et on va débattre du sujet par la suite.
Merci, Nicolas. Et effectivement, qu'est-ce qu'on retrouve maintenant sur Internet? Tout le monde veut dire s'y adonne. Plus que jamais, les gens vont se référer à l'Internet plus que les médias traditionnels, que ce soit la radio, la télévision, les journaux. Et en cette fin d'année, c'est un article qui est paru justement là, dans un The Intelligencer, un article donc américain, et qui, par contre, amène la réflexion et amène la discussion à critiquer un peu jusqu'à quel point que l'Internet est vrai aujourd'hui. Autrement dit, si on se rappelle les bonnes vieilles années de l'ARPANET quand ça a commencé et la démocratisation de l'Internet quand ça a commencé, c'est ça qui est intéressant de voir l'évolution parce que l'Internet, originellement, elle était prévue pour l'échange honnête et facile à travers le monde, des idées, des échanges, donc vraiment devenir la place publique pour qu'on puisse à ce moment-là amener des débats comme on fait aujourd'hui, amener chacun son point de vue et à ce moment-là faire évoluer les choses. Or, on se rend compte évidemment que quelques dizaines d'années plus tard, au début de l'Internet, on est devant un fait accompli que l'Internet n'est pas ce qu'on avait espéré. C'est pas mal rendu l'automatisation. Le texte qu'on voit dans un journal, dans un site donné, les plateformes de médias sociaux qui ont explosé en termes de quantité de médias sociaux qui existent à gauche et à droite. Et encore là, on va peut-être s'adonner à parler seulement que des principaux comme Facebook, Twitter, Instagram et so on. Ça fait en sorte qu'on peut demander puis jusqu'à quel point que les hébergeurs, faut pas dire les gestionnaires de ces plateformes-là, font un travail pour être capable d'épurer et d'amener ça le plus sain possible. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dessus? On le voit encore cette semaine, c'est Twitter qui ont procédé au retrait de quelques comptes qui ont été établis appartenant à certaines compagnies qui avaient des liens avec le Kremlin en Russie. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est le minimum qu'ils doivent procéder à faire pour être capable de se dire une compagnie qui est fiable dans sa façon de procéder? Je ne crois pas. En tout cas, c'est là qu'on va en débattre aujourd'hui. Et surtout, jusqu'à quel point qu'on peut à ce moment-là espérer d'avoir des opinions et des idées qui vont être franches et vraies, qui vont circuler à travers ces médias sociaux-là. Donc, l'invitation à lancer, messieurs, Nicolas, Vincent, que vous en pensez?
Bien, comme tu disais en introduction, l'Internet a été créé à des années où les gens se faisaient confiance. Puis c'était dans un milieu, dans un contexte où tous les partenaires qui étaient sur le réseau étaient naturellement de confiance. Puis on avait au moins, souvent ces gens-là même se connaissaient dans la vraie vie puis s'étaient vus pour de vrai. C'était ça, c'est l'époque, les premières années de l'ARPANET et ainsi de suite, où c'était des réseaux universitaires de recherche et ainsi de suite. Ça a été constitué comme ça. Et comme bien des protocoles, puis on l'a vécu en sécurité, ça n'est pas constitué pour vivre dans un environnement hostile. C'est fait pour vivre dans un environnement de confiance mutuelle où on assume à tort, maintenant, qu'on constate que ton partenaire ou ton personne que tu communiques avec est de confiance et est de bonne foi. Donc, on vit dans un univers où finalement, on a maintenant du monde hostile qui s'intéresse à foutre le bordel. On les a nommés maintenant des trolls, puis on nomme ça même du fake news, puis un peu le titre de l'article. Maintenant, ce genre de choses-là, on est capable maintenant de pousser n'importe quoi. Et les grandes de ce monde, comme Facebook, Twitter, entre autres, font face à un problème majeur qu'ils n'ont jamais constitué leur plateforme dans cette optique-là où ils devaient vérifier leurs sources. Ils ont toujours constitué leur plateforme où c'était des gens, des humains, qui transféraient de façon de bonne foi des informations, puis généralement qui monétisaient ensuite cette information-là pour faire ça. Puis c'était jamais été pensé pour être une plateforme comme les journaux l'ont toujours été. C'est une plateforme où il y a une certaine forme de gaieté, c'est-à-dire que tu peux pas rentrer n'importe quoi parce que normalement, les journalistes font une vérification. Maintenant, il est rendu plus du côté minimal, mais à une certaine époque, le journalisme avait une certaine rigueur, ce qu'on a beaucoup perdu dans les dernières années, où les sources étaient vérifiées, où l'information qui est véhiculée était toujours vérifiée, donc n'avait jamais d'information fausse qui était relayée par les médias. Maintenant, est-ce qu'on peut, même ça, on peut plus dire que cet élément-là est vrai, puisque ces mêmes médias-là se basent sur l'Internet d'information qui est non vérifiable par des sources qui sont des fois douteuses.
Vincent, ton opinion là-dessus serait?
Oh, écoute, je suis d'accord, mais j'ai juste une petite réserve. Comme Nicolas disait, les grandes plateformes d'échange où l'objectif, c'est de centrer puis de connecter le plus de personnes possible, c'est pas tout à fait vrai qu'ils n'ont pas soulevé la question de perte de contrôle à un moment donné. Ils ont sûrement déjà pensé que ça pourrait arriver. La seule affaire, c'est que la perte de contrôle a pris du temps. Ça a pris du temps avant de s'installer. Ça a été insidieux, ça a été sournois. Puis là, tout d'un coup, là, ça doit faire 2 ans, au moins 2 ans et demi, 3 ans, où il y a vraiment une explosion. C'est exponentiel. Puis oui, on les comprend. Là, Mark Zuckerberg, pauvre petit jeune homme, là, il est pogné avec ça, bien entendu. Mais c'était prévisible, par exemple. Là, cette semaine, je pense qu'il reparlait de son fameux projet. Là, je sais pas si c'est une centaine de millions. Son projet, justement, pour accompagner les plateformes de nouvelles pour, justement, favoriser l'échange de meilleures nouvelles, etc.
Oui, mais en même temps, c'est tout l'ironie, parce qu'on parle de cette semaine, c'est le Challenge 10 ans qui, dans cette perspective-là, laisse un doute raisonnable sur l'intérêt réel de Facebook à vouloir être de bonne foi dans ces notions-là aussi. Là.
Mais voyons, attention, là, Nicolas, t'es de mauvaise foi parce que Facebook a laissé savoir que clairement, c'est pas eux qui ont demandé, qui ont commandé ça à sa population de 2 milliards d'usagers de faire un 10 ans de répertoire et de mise à jour de leurs photos. Non, 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 c'est l'initiative d'un usager puis que tout bonnement, il a lancé ça. Là.
Oui.
Si vous voulez mon avis, toujours la peau du gain, hein? Les grands de ce monde-là, c'est plus l'individu, là, c'est plus le Mark Zuckerberg qui gère sa plateforme. C'est ses avocats. Ses avocats veulent de l'argent. Ses commanditaires veulent de l'argent. Là, c'est l'argent qui est en train de runner ça. Puis malgré les fake news, là, malgré la quantité de cochonneries qu'on voit passer, je suis convaincu que ça génère de l'argent. C'est épouvantable en plus. Ils font de l'argent avec des déchets comme nouvelle, là.
On appelle ça la valorisation des revenus.
Ah, c'est bien dit, Sonic. Oui, ça a bien du sens. Et en même temps qu'ils font ce genre de traitement d'informations, ils font du recyclage à travers tout ça, ils font de la récupération, c'est certain. Et comment est-ce qu'on a vu de fois que la nouvelle est sortie, la nouvelle a été produite, et sans vérification, ça a pris un envolé. Là. Juste, encore là, on parlait du 10 ans là, cette semaine, juste la photo des icebergs là, qui est sortie, photo d'iceberg 2009-2019, c'est même une photo a été prise en Antarctique, l'autre photo a été prise en Arctique. Je veux dire, c'est fou, parce que personne a juste pris ça pour acquis, ça vient de la plateforme, mais sans faire la vérification. Puis c'est dur de faire une vérification comme ça aussi. Là. Je sais pas ce que tu en penses, Vincent.
Ben oui, c'est dur. C'est extrêmement dur de faire ce genre de vérification-là. Le rôle de modérateur, c'est ça que je cherchais. Le fameux rôle de modérateur sur les plateformes d'échange. Pour justement régulariser l'information. Au départ, c'est le premier objectif, c'est de supprimer le contenu haineux, les insultes, etc. Mais pour l'audit, en fait, de l'information qui est transigée, mais je pense qu'il y a une perte de contrôle présentement. Je me demande même si l'intelligence artificielle pourrait pas, à un moment donné, venir donner un petit coup de main, justement. Je viens de parler de quelque chose d'intéressant. En fait, ça va prendre l'intelligence artificielle, une IA qui est bien calibrée, en fait, au minimum, pour être capable de départager puis donner un petit coup de main aux humains dans ce dossier-là.
Il y a ça, mais là, tu parlais de l'image de l'iceberg, entre autres. Puis ça, c'est un autre problème qui est inhérent à tout ce que Internet est, c'est qu'on n'a plus de contexte. Et le cas du iceberg, effectivement, est un cas comme ça. On a vu circuler, je pense, à peu près à un an, j'imagine. Je pense à un ours polaire qui jouait avec un chien. Et ça, la réalité là-dedans, c'est que, ah, c'est cute ça. La réalité, c'est que l'ours mange le chien. Il fait juste jouer avec sa bouffe. Donc, la réalité n'est pas généralement que ce qu'elle est présentée, une photo. Si on n'a pas le contexte, si on ne connaît pas, j'imagine les gens qui vivent en Alaska, Yukon, dans ces zones-là, sont très familiers avec ça. Nous, plus, même si on est un peu plus dans le sud, On côtoie pas des ours polaires comme eux peuvent. Puis même au Yukon, je suis même pas sûr qu'ils en voient. Mais cette notion-là, ils le bouffent. C'est pas cute comme l'image présente, comme quoi le règne animal est gentil, petit, machin. Comme un peu on a dans les émissions d'enfance, qu'on avait où nous les animaux étaient tous des amis ensemble. Le renard ne mangeait pas le lapin. On aime ça, penser que c'est comme ça, mais la réalité elle est autre. Le manque de contexte, puis c'est tout ça le problème du fake news aussi, c'est que le manque de contexte et d'éducation générale des gens d'être capable de dire, hey, ça c'est limite louche.
Louche, mais en même temps réel. Puis ça, c'est vrai que les gens veulent garder ça le plus simple possible, veulent garder ça le plus près possible de qu'est-ce qui peut être le plus agréable. Tu sais, comme dans un certain film, là, je cherche le nom, là, je veux dire Happy Gilmore. Put yourself in a happy place. A happy place. La place où on peut espérer que tout va bien, aucun tracas et qu'on va vivre heureux jusqu'à la fin de nos jours. C'est ça que les gens souhaitent parce qu'il y a tellement de mauvaises nouvelles qui circulent aussi. Aussitôt qu'il y a quelque chose qui semble bien, qui semble agréable, c'est certain que ça va virer. Quand je dis c'est certain, là, c'est que c'est un constat. Ça vire dans l'imaginaire positif parce que les gens, ils peuvent très bien s'imaginer que ça va virer de l'autre côté puis on est inondé de trucs là, négatifs. Et c'est comme ça que je crois que ça anime l'imaginaire des gens d'aller se donner une possibilité d'avoir juste un petit moment de quiétude, un petit moment de bonheur. Et après ça, c'est alimenté par ces images-là qu'on retrouve à gauche et à droite. Ça alimente aussi du côté des affaires de mettre quelqu'un sur un piédestal avec beaucoup de succès, avec des faux clics. Je veux dire, il y a des click farms qui existent partout, surtout encore là, pourquoi surtout en Russie, ça a été montré maintes et maintes fois. Je sais pas pour vous autres les gars, mais j'en trouve pas ici en Amérique du Nord beaucoup de ces places-là. Mais ça démontre où ce que quelqu'un peut s'acheter une certaine notoriété de 25 millions de clics pour sa plateforme, peu importe laquelle, et du jour au lendemain, la personne va être mondialement une superstar sur Internet, alors qu'en réalité, il parle peut-être quoi 5-6 personnes par semaine. Et là, soudainement, il est reconnu par des millions de personnes à travers la planète. Ça, c'est pour moi, là, je veux dire, le fondement, ce que c'est le faux du vrai. Et souvent, je regarde ça, les statistiques, là, je veux dire, je trouve ça poche, là, je suis en bas de 5000 personnes, ça veut dire que personne m'aime, là, tu sais. Ça, les gens, ils vont y aller avec des
sentiments. On t'aime, Steve.
Ah, merci, gars. Merci, là, vous m'aidez beaucoup. En tout cas, je vais m'en reprendre. Mais c'est l'idée, c'est ça. Autrement dit, il y en a qui vont y aller de façon humaine et non pas de façon d'affaires et ils vont amener justement l'émotion à aller chercher justement tricher un peu pour être capable de se donner cet avantage-là.
Ben, il y a entre autres ça, puis de toute façon, les click farms qui est une chose, puis j'ai l'impression qu'on n'en a pas beaucoup en Amérique parce que ça doit coûter très cher en ressources humaines de faire activer des click farms. C'est pas pour en Inde, en Asie, Russie, doit avoir une plus grande facilité à avoir ce genre de choses-là. Puis effectivement, on a malheureusement, les humains ont mis une connotation émotive très forte face à ces symboles-là, qui sont des symboles d'une forme de réussite sociale qui sont vraiment mal interprétés par le cerveau et qui amènent un certain même qui est lié avec la génération de dopamine dans le cerveau. Fait que c'est terrible en termes de fuck que ça vient de faire dans notre tête. Mais cela étant, est-ce qu'on est sûr que les algorithmes de Facebook, YouTube et toutes ces choses-là sont honnêtes dans le décompte des clics, dans le décompte des différents éléments qui nous mettent devant les yeux parce que leur objectif, eux autres, sont les vues dans YouTube. Les vues sont faites pour les advertisers, les compagnies de publicité, pas pour l'utilisateur. À part alimenter son ego puis le booster un peu, la finalité, c'est une finalité monétaire. Fait que je suis pas sûr que nécessairement comment YouTube calcule à quand le view commence. Est-ce que c'est à 10 % d'écoute, à 75 % d'écoute? Est-ce que si tu écoutes juste une seconde, tu as un view? Donc, tous ces éléments-là sont questionnables, même sur eux, leur motivation de la chose. Là, je vais te prendre sur la parole.
Écoute, un petit élément intéressant que tu soulèves, Nico, parce que ça se mesure, ce que tu viens de dire là. Peut-être qu'un jour, je ne sais pas Steve, si tu es familier, moi je suis vérificateur, je suis spécialisé en TI. Par exemple, quand tu utilises un système SaaS ou que tu utilises les services d'un tiers, pour avoir une assurance raisonnable, que le contrôle interne est efficace tout au long de l'année, ben, un auditeur indépendant va auditer des contrôles déclarés. Tu vas avoir un rapport. Ce que tu viens de dire là, Nicolas, pourrait peut-être éventuellement devenir justement un critère, un indicateur pour, je sais pas moi, une entité sérieuse qui veut faire affaire avec un partenaire, disons, honnête, qui modère justement sa plateforme pour éviter des catastrophes sociales, si on veut, ou de la valorisation sociale, mais malsaine, on va dire. Ça va peut-être éventuellement être au contrat de faire justement auditer ces fameux indicateurs-là. Écoute, rendu là, on verra, on aura peut-être des bonnes ou des mauvaises surprises. Mais présentement, ces histoires-là, Nick, là, ça fait l'affaire de Google si ça fonctionne plus ou moins bien. Ça fait l'affaire de Facebook. Malheureusement, c'est que les deux parties, de mauvaise foi, trouvent leur compte. Là. C'est ça, la pas du gain. L'argent, l'argent. Hein, oui.
Oui, puis c'est là qu'on, je crois que ça vient rejoindre aussi nos politiques de chacun des pays où ce que les gouvernements ne prennent pas le temps. Ben, ils l'ont pris le temps, ils ont le staff pour faire les études, comme tu viens de décrire, Vincent. Et il s'adonne justement d'aller au plus efficace. C'est certain qu'ils mettent des bâtons dans les roues d'une compagnie qui amène une certaine notoriété pour eux-mêmes, parce qu'ils vont s'en servir, les médias sociaux aujourd'hui, les politiciens, pour être capables de se mousser davantage, un peu comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et c'est vérifiable. Je veux dire, après ça, si on fait un décompte, là, surtout en période électorale, je veux dire, il y a des vérifications à faire. Puis là, on regarde tout d'un coup, il y a un député, là, du jour au lendemain, il y a 15 000 followers, là, tout d'un coup, juste pour monter sur un peu sa cote de popularité. Oui, à ce moment-là, des élections, peu importe le body, élections Canada, élections Québec, devraient être en mesure d'aller vérifier tout ça et de s'assurer que hey, c'est des statistiques réelles et valides que vous, monsieur le député ou madame la députée, que vous avez générées, ou bien c'est vraiment un paiement que vous avez fait on the side pour aller chercher cette notoriété instantanée. Ça, faut que ça soit légiféré, comme on dit.
C'est pas sur le même sujet, Yannick. Vous souvenez-vous, à l'aube, en fait, des médias sociaux, je me souviens d'une dame, ça doit faire à peu près 10 ans de tout ça, elle a fait un reportage à la télévision. Puis la dame avait étoffé, en fait, puis elle a fait une étude. C'était fort intéressant à l'époque parce que ça se tenait. Il n'était pas possible pour les business d'utiliser les réseaux sociaux pour générer de la business. La plateforme ne servait pas à ça. Pauvre dame, pour moi, elle venait de lancer le bal ou elle venait de lancer un défi parce que c'est épouvantable. C'est épouvantable, l'argent qui circule là-dessus. Là, je me dis, là, elle doit être dans son salon. Elle doit se dire, mon Dieu, j'espère qu'il n'y a plus personne qui se souvient de cette entrevue-là parce que c'est complètement l'inverse. Les compagnies ont su tirer leur épingle du jeu. Ça a été tough. Il y a des compagnies qui ont perdu, mais il y en a d'autres, là. C'est épouvantable. Ils sont habiles là-dedans. C'est articulé. Et puis, on y croit, là.
Et c'est devenu aussi l'utilisation des médias sociaux et pour beaucoup de petites entreprises, la façon de rejoindre une masse de clients qu'avant ça, ça n'était vraiment pas possible pour eux d'obtenir. Ça, c'est fantastique pour la PME. L'autre côté aussi, pour la grande entreprise, les gouvernements, etc., ça leur donne le levier d'aller rejoindre justement la base de leur clientèle, la base de leurs électeurs, sans qu'ils aient à dépenser une fortune. Et c'est là que je crois, Vincent, qu'ils ont été capables de faire le calcul assez rapidement, de dire « Hey, je peux prendre ça, lui faire de la publicité dans le journal X ou Y, et ça va me coûter 15 000 $ Là, après ça, autrement dit, ça va me prendre 15 minutes à la place et je vais générer de la publicité à peu de frais pour être capable d'aller chercher justement mes 150 000 électeurs, 150 000 clients. Ça, je crois que c'est la mathématique qu'ils ont fait. Mais au moment où la personne, ce reporter-là, a fait l'analyse, ben, elle a dû arriver au simple constat que par l'utilisation loufoque, parce que c'était vraiment l'amusement qu'il y avait plus sur les réseaux sociaux que quoi que ce soit d'autre. C'est encore ça, je pense, on peut s'attendre là-dessus aujourd'hui. Là, il n'y a pas grand-chose de très, très sérieux sur les médias sociaux. À part les fausses nouvelles, parce que ça, c'est du sérieux, ça, c'est savoir faire. Je suis un abonné fervent du Revoir, du Journal de Montréal, et c'est là que la vérité sort, enfin. Mais je vous laisse en débattre, là.
Ce point-là est très intéressant parce que tu amènes ces deux journaux-là mais c'est comme de The Onion aussi, c'est des athlètes qui sont en fait expressément pour créer de la du satire qui est faite pour rire des nouvelles qui sont faites pour ça. Et là, c'est dans un contexte d'humour. Et ce qui est troublant, c'est qu'il y a des gens qui y croient pour de vrai. Fait que là, ça devient troublant parce que, tu sais, on parle des fake news, ça, c'est une chose. Puis là, il y a des manufactures de fake news. On a taxé beaucoup la Russie d'être vraiment une manufacture immense de fake news. Ça reste encore à démontrer jusqu'à quel point c'est juste eux autres ou qui, dans tout ça, parce que j'avais l'impression que tout l'Occident est responsable de ça. Mais c'est l'éducation des gens, puis de même pas le cas de reconnaître de la satire versus des vraies nouvelles est déjà problématique.
Vois-tu, je peux te rassurer, Nicolas, là-dessus, tous les pays industrialisés ont tout un programme d'espionnage, un programme d'écoute électronique aussi simple que sophistiqué qu'il peut l'être. Et ils ont maintenant, si tu regardes dans le livre blanc, si on peut appeler ça comme ça, un chapitre qui s'appelle « Les opérations d'information ». C'est l'influence par les médias de masse de la population, évidemment, c'est axé d'un côté militaire sur les camps adverses, on a vu ça, exemple, dans les premières années, qui s'en sont servis de façon moderne en Bosnie, juste un exemple comme ça, et qu'on l'a vu par après partout, il y a des forces armées de l'OTAN qui ont été déployées, là, si on peut juste prendre l'exemple d'Afghanistan sur les 10 années qui ont été là-bas, je veux dire, les médias sociaux tels qu'on en parle, la télévision et tout, ça a été utilisé abondamment pour être capable de faire pencher l'esprit populaire des gens pour aller pencher vers l'élément de la mission qui était à ce moment-là de rebâtir le pays à la façon que le monde occidental avait dit qu'il soit.
Tout à fait. Mais puis, tu peux aller, tu sais, de la CIA financer des radios, des publications dans certains pays communistes à une époque.
Oui.
Il y a eu beaucoup, beaucoup d'énergie et d'argent qui a été mis là-dedans. C'est juste que là, c'est accessible à n'importe qui.
Exact. Là, tu réfères aux médias traditionnels, ça a toujours été dans l'équation, que ce soit que une fausse compagnie ça permet d'aller acheter de la publicité et la diffuse à heure de grande écoute. C'est comme ça qu'ils vont, à ce moment-là, oui, commencer à faire passer le message. C'est pas pour rien que Huawei a été s'acheter une banderole publicitaire à Hockey Night in Canada pour être capable que Huawei rentre dans le collectif et que tout le monde, à ce moment-là, ben on dit Huawei, là. C'est Molson qui a parrainé combien de temps à la soirée du hockey? C'est Lapat qui parrainait les expos. O'Keefe, les Nordiques de Québec, c'est pour ça qu'il n'y a plus d'O'Keefe, il n'y a plus de Nordiques. Quoi, ça ne va pas bien. c'est de cette façon-là, il y a le message, des fois, il passe ou il drop. Mais n'en tient pas moins que c'est certain, les influences, ben, tu sais qu'on parlait tantôt du 10-year challenge. Là. Ce 10-year-là challenge fait en sorte que oui, là-dessus, il y a beaucoup de gens qui débattent, qui disent non, c'est pas vrai que Facebook fait une collecte d'informations puis ils vont mettre à jour les bases de données, les algorithmes, etc. Mais désolé, Facebook a été prouvé maintes et maintes fois dans la dernière année, les deux dernières années même, qu'ils ne représentent pas la vraie raison de leur business. Le modèle d'affaires est basé sur la collecte d'informations et la revente surtout.
Tout à fait. Effectivement, c'est le modèle d'affaires de Facebook, comme ça de Google aussi par ailleurs. Tout ces grands géants-là vont être sur la base de collecte d'informations, sur la base de on est le produit, on n'est pas le client à ces plateformes-là. Ce qui fait qu'ensuite, te dire que Facebook bénéficie. Et en supposant que Facebook n'est pas responsable d'avoir lancé le challenge 10 ans, malgré ça, ils en bénéficient énormément parce que volontairement, on est en train de tout faire ça. J'ai plein de monde dans mon réseau qui le font. Plein de choses, c'est malheureux, c'est comme quoi les gens ne savent pas exactement comment adresser ça. On est finalement tous des moutons qui, tranquillement, on suit une mode puis qui nous amène à un endroit qui alimente les bases de données d'un Facebook. Oui, Vincent?
J'ai l'impression, et ceci ne constitue que mon opinion à moi, je tiens à le préciser, je pense que les gens sont malheureux. Je pense que les gens sont malheureux. On le sait, ils sont devant un écran. Ils ne sont pas avec du monde. Ils n'interagissent pas. Là, il y a je vais réutiliser le mot, c'est vicieux et insidieux, la petite idée qui s'installe. C'est très inconscient en plus. Puis, on dirait que il y a une forme d'expression dans toutes ces histoires-là. à une époque que c'était pas compliqué. C'était la parole du Seigneur que les gens pitchaient, ça avait pas de sens, les photos d'anges. Puis là, tu te disais, mon Dieu, la personne, est-tu en train de vivre un malheur? C'était juste plus flagrant. À cette époque-là, ben oui, les gens vivaient un malheur, une forme d'anxiété, probablement, peut-être du stress, une rage. Hey, de la colère refoulée, là, derrière un écran et un clavier, là, c'est, t'as une mitraillette qui t'es derrière ton bouclier, là. C'est facile. La plateforme donne aussi une aisance, puis ça favorise la facilité aussi à produire ce type de contenu-là. Mon idée de base, j'y reviens encore. Je pense que les gens sont un peu malheureux, puis ils manquent de contact un petit peu.
J'ajouterais, Vincent, ton commentaire de chaleur humaine pour être capable de faire, de valider le sentiment. Et oui, moi, je vois dans l'idée que l'élimination des tavernes là, à travers les 20 dernières années, ça a contribué à amener cette situation-là de malheur dans notre société, malheureusement, où il y avait lieu d'expression, peu importe la façon, aider peut-être avec une bière ou 12. C'est certain qu'à ce moment-là, les gens savaient qu'est-ce que tu pensais. Tu pouvais exprimer qu'est-ce que tu pensais aux gens. Mais on ne fera pas un débat de sociologie ici, mais je veux dire, il reste pareil que oui, les plateformes de médias sociaux garantissent une certaine anonymité. Les gens, à ce moment-là, peuvent être vraiment là très tristes devant leurs écrans. Et ça ne transpirera pas à l'auditoire, que ce soit la collection d'amis ou une auditoire vraiment anonyme et très vaste, comme quoi que la personne est sur le bord de la déprime et qui est pas très heureuse.
Moi, ce que je trouve encore plus malheureux là-dedans, c'est la violence des commentaires que ces gens-là peuvent recevoir. Je comprends pas. Tu l'as bien dit, hein? Moi, je m'ennuie du ranch à l'ancienne Lorette, la taverne de ranch. Écoute, tu pouvais t'exprimer. Tu pouvais être avec une gang de boys, de girls. Tu disais quelque chose qui en choquait un ou l'autre. Tu avais un débat devant une bière ou 12, bien mentionné. Puis, t'échangeais, puis la vapeur, la steam sortait, là, puis tout le monde retournait heureux chez eux. Là, tu publies quelque chose pour recevoir une trolley de bons commentaires, de gens qui veulent t'aider parce qu'ils pensent que t'as un problème. Je pense qu'ils ont raison. Puis, t'as aussi ceux qui t'envoient des fameux commentaires haineux. Hey, ça doit être tough. Ça aide pas sur le bonheur, ça.
Ouais, vas-y, Nicolas.
Ben, t'as toutes les traces que tu disais, puis pour reprendre l'analogie de la taverne, c'est que quand la conversation était finie, le monde entendait, c'était disparu. Ça disparaissait, puis il n'y avait pas de suite à tout ce genre de choses-là.
Ça met un tag de souvenir, comme tu dis, là.
Ça restait qu'à l'état de ça, puis donc ça avait une certaine capacité d'évacuation de notre intérieur, qui des fois est fâché, qu'on a besoin d'évacuer à l'extérieur. Qui était un endroit qui permettait ça sans conséquence parce qu'on l'oubliait, on n'était plus là. De façon rendue à 12 bières, il y avait une forte chance que le lendemain, tu ne te souvenais plus vraiment de ce que tu avais dit et de ce qui s'est dit. Fait que ça a cet aspect un peu salutaire de purger ça. On n'a plus ça, puis on s'alimente de fake news parce qu'en plus, ces fake news sont, comme tu disais, viennent de nous rassurer à l'intérieur. C'est du bonheur qu'on a l'impression de consommer de façon momentanée, mais qui s'efface et s'évanouit aussi rapidement.
En parallèle, je veux dire, combien de fois dans les 5 dernières années a-t-on appris que c'était la fin du monde? Je veux dire, il y a toutes sortes d'astrologies ou de prophètes là, qui se sont autoproclamés, puis que là, ça arrive que la fin du monde, ah ben là, c'est la pleine lune, qui le Blood Moon, qui appelle ça là, dimanche à lundi. Et là, c'est certain qu'il va arriver quelque chose de très grave. Je veux dire, ça va être la résurrection de Osama Ben Laden sûrement. Là, je dis n'importe quoi parce que c'est ça. C'est ça, puis il y a tout le monde qui va se donner une raison.
Allez, je reviens à ça. J'ai une cousine qui a émis un commentaire justement sur Facebook cette année. Dernièrement, c'était bien drôle, c'était au sujet de la fin du monde. Elle mentionne comme commentaire, Nostradamus, là, il est-tu mort à 1000 ans pour prédire autant d'hosties de fin du monde que ça? Il y a toujours une nouvelle méthode, un nouveau mécanisme. Ça vient toujours de Nostradamus. J'ai trouvé ça excellent, j'ai fait un thumbs up.
Oui, moi, je pense que c'est louable parce qu'à ce moment-là, c'est on va y donner un 8 sur 10 pour la recherche. Là, tu sais, c'est ça qui est le fun. Faut aller au-delà. Pour comprendre Michel de Notre-Dame, comment est-ce qu'il a bâti ses quatrains puis qu'il a bâti ses prévisions, il y a quand même un travail très intéressant. Et là, comment est-ce que quelqu'un l'interprète? Wow, c'est là que ça dérape un peu. La science en arrière est bonne. Mais il reste toujours bien que, comme on disait Nicolas tantôt, la personne veut aller chercher qu'est-ce que lui va dire, il va l'interpréter à sa façon, puis là, il va dire, ah, dans le fond, OK, on meurt pas aujourd'hui, donc le happy place prend place dans son cerveau, puis là, il est capable de passer une belle journée. Pareil comme quand les gens lisent le journal, soit au restaurant ou à la maison, ils regardent des annonces d'astrologie, et souvent, l'astrologie va toujours donner un petit coup de pouce, un petit coup de pouce, une tape en arrière, dans le dos, c'est-à-dire pour passer une belle journée. C'est le fun, les gens aiment ça, puis ils ont besoin aussi de... Mais on vient à notre idée principale tout à l'heure, malgré qu'est-ce qu'on trouve sur les plateformes de médias sociaux, peut-on aussi dire que avant ça, c'était l'astrologie à la page 35 du journal qui disait « Vous allez passer une belle journée, faites-en pas en amour. » Votre prince ou votre princesse charmante s'en vient bientôt. C'est ça qu'il y avait besoin des gens pour être capable de passer, d'avancer à l'étape suivante, à la journée suivante, ou bien, là maintenant, le journal est de côté, ça, il va juste par les médias sociaux.
On va chercher cette petite zone de réassurance, on va la chercher d'une façon ou d'une autre. Là, malheureusement, on l'a mécanisé, industrialisé avec tous les éléments, surtout les éléments de fake news, c'est terrible. Bon, donc, sur ça, on va compléter cet épisode-là. Sur ça, on a commencé à brasser des idées intéressantes sur le volet de l'apparence et le côté insidieux des fake news, puis comment les gens le prennent. Est-ce que vous avez un mot de la fin, chacun?
Oui, moi, je veux le retour de Jojo Savard.
En vrai ou en virtuel? Oh, c'est important, là, je veux dire.
Écoute, je pense que je veux les deux. Je pense que je veux les deux, même que on devrait bâtir une intelligence artificielle basée sur son bagage émotionnel. Probablement que ça ferait une petite interaction, ça pourrait faire une interaction intéressante avec l'écran.
Tu viens de donner une méchante bonne idée, toi, là, pour un projet, là. Eh, tabarouette, on va mettre l'intelligence artificielle au profit de notre société, tu sais. On va en faire, tu sais, les télé... Comment ça t'appelait le 1900 pour avoir ton horoscope, là? Là, à ce moment-là, ça va être du clic 1900 là, pour avoir accès là au firmament. Le point que j'aimerais rajouter, Nico, là-dessus, c'est, messieurs, dames, cherchez vos sources, regardez la nouvelle avant de conclure. C'est-à-dire, je me suis amusé à Noël, là, j'ai mis une fausse nouvelle, là, je m'avoue coupable, parce que... Il y en a beaucoup qui ont rentré dans le panneau. J'avais affiché que la Plaza Nakatomi à Los Angeles s'était fait prendre par des terroristes et que la police était sur place et qu'il y a un policier qui était parmi les otages sur un 24 décembre. Et ceux et celles qui se rappellent qu'est-ce qu'est la Nakatomi Plaza, ben, c'est die hard, ben, je veux dire. Mais pas de farce, là. J'ai eu des gens qui ont embarqué puis qui ont dit, ah, ça n'a pas de sens, le terrorisme est partout. Ah, il faut aider ces gens-là. Puis ils apprêtent quasiment à faire une levée de fonds juste pour aider le pauvre policier, là. Mais ça pour dire, checkez vos sources, c'est-à-dire renseignez-vous, vérifiez, parlez-en, comme on vient de jaser aujourd'hui ensemble, pour que vous puissiez avoir à ce moment-là une validation que c'est une nouvelle qui est vraie, c'est une nouvelle que peut-être qui n'est pas vraie et que vous pourriez en rire. Moi, utilisez un terme populaire, risez-en de ces nouvelles.
Tout à fait. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente semaine.